Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec vous, bien sûr, comme tous les jours au 32-16. On vous attend pour discuter, dans un instant, discuter d'Edouard Philippe, mais on vous attend aussi pour gagner des vacances. Parce que les clubs Bellambra, c'est pour vous. 50 clubs Bellambra. Vous choisissez votre destination, vous regarderez la carte des clubs, puis vous dites, là, moi, j'ai envie de partir, là, façade atlantique, façade méditerranéenne, à la montagne du côté des Alpes, pourquoi pas, le centre de la France, à disposition, la Bretagne, la Manche. Vous choisissez, vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS 732-16. Je regardais, tiens, du côté des Alpes, on a Praz-sur-Arly, Megève, Morzine, on a les Menuires, les Saisies, Arc 1600, Arc 1800, Arc 2000, La Plagne, Tignes, Orcières 1850. Pas mal pour ceux qui aiment la montagne quand même. Il y a de quoi faire. Donc vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous passez en direct tout à l'heure dans les GG, dans les Grandes Gueules. À 11h20. Allez, on y va pour notre nouveau sujet de discussion. On va parler de la maladie d'Edouard Philippe.
RMC, les Grandes Gueules.
Et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche, et elle tombe un peu, et mes cheveux tombent aussi. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux. Ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. J'en souffre à 52 ans. Voilà, perdre ses cheveux à 52 ans, c'est bien, ça va, c'est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d'alopécie, ils ont 15 ans. J'ai la chance de pouvoir dire à ceux qui souffrent d'alopécie que l'essentiel, ça n'est pas la façon dont on les regarde, c'est ce qu'ils sont.
Voilà, c'est la première fois que Edouard Philippe parle ouvertement de ce que l'on voit depuis qu'on connaît cette personnalité politique. De son état physique.
Oui, c'était l'opération vérité hier sur BFM TV avec Bruce Toussaint. Edouard Philippe voulait rassurer les gens qui, c'est difficile de faire autrement, qui se posaient quand même plein de questions en voyant effectivement son physique, son visage changer, à la fois cette perte de pilosité, mais aussi un visage devenu un peu plus bouffi. C'est pas le Edouard Philippe qu'on avait connu lorsqu'il était à Matignon. Alors il nous a expliqué que c'était ni douloureux, ni contagieux, ni grave, que c'était sans doute créé par le stress, cette alopécie, c'est l'une des causes possibles. Alors peut-être le stress d'avoir été aux affaires, aux responsabilités. Est-ce qu'il a eu raison de jouer la transparence, même si de toute façon c'est difficile pour lui de cacher qu'il a un problème? Est-ce que on sait tout? Est-ce qu'il y a quand même pas encore des questions qui se posent? Tiens, Jérôme Marty, l'alopécie. Est-ce que ça parce que moi ce qui m'interpelle, c'est que je comprends la perte de poils provoquée par l'alopécie, mais il y a un visage aussi qui a changé.
Il a probablement deux affections. Il y a une mélanodermie et puis il y a une alopécie. On voit bien qu'il a la barbe qui est devenue blanche, les cheveux qui sont devenus blancs. Il a une dépigmentation, donc il a probablement ce qu'on appelle un vitiligo et une alopécie.
Les deux sont palliés,
c'est des pathologies auto-immunes avec des facteurs prédisposants. Ça ne veut pas dire que c'est lié. Est-ce que ça peut être une maladie de système? On n'est pas là pour juger ni faire des suppositions sur l'état.
Ce sont des maladies qui progressent.
Ah ben sur le vitiligo, ça progresse, oui, lentement, mais ça progresse. On le voit bien. Mais il a raison. Il l'a eu tard. Après, perdre ses cheveux, c'est pas dramatique. Hein.
Ça arrive à tout le monde, même aux gens bien.
Mais en tout cas, moi, ce que je veux saluer, c'est justement le fait qu'il en parle absolument sans complexe, qu'il ait cette phrase magnifique qui dit « L'important, c'est pas ce qu'ils ont, mais c'est ce qu'ils sont ». Et ça, c'est merveilleux de dire ça. Et tous les gens qui portent des maladies chroniques se reconnaîtront dans les paroles d'Edouard Philippe. Et il faut le saluer. Il serait diabétique, ça se verrait pas. Il aurait pu le dire, et on peut être un politique en étant porteur de maladies chroniques, surtout quand on a des pathologies, comme il l'a dit très justement, qui sont ni douloureuses, ni contagieuses, ni dangereuses. Donc mais il y a une modification de son aspect physique. Certains peuvent en jouer face à lui, en l'estimant diminué ou autre. Il n'est pas du tout diminué. Il a toutes ses capacités, il le montre tous les jours, et c'est très bien. Et moi, je trouve que Là, pendant ces quelques instants où il a parlé, il est en quelque sorte le porte-parole de tous les patients atteints de maladies chroniques. Et c'est très bien.
C'est ce qu'il fait. Il a dit d'ailleurs. Il dit, moi, j'ai ça à 52 ans. Il y en a qui l'ont à 15 ans. C'est plus embêtant.
Bien sûr.
Et Lina, oui, moi, je salue le courage d'Edouard Philippe.
Oui, moi, je salue son courage de l'avoir dit. Et personnellement, moi, j'ai appris que cette maladie existait. Et ce que je voulais dire, c'est que vous vous rendez compte dans quelle société on vit quand même ? Parce que de toute façon, s'il le disait pas, bon, de toute façon, ça se voit.
Ça se voit, oui.
Là, sur les réseaux, même il y a certains journalistes que j'aime pas cette presse, ils auraient inventé des trucs, vous connaissez. Donc, ça veut dire que dès qu'on est plus normaux sur un plan physique, on pourrait pas avoir, comme le dit très justement mon collègue, ça veut dire qu'on est con, quoi. On ne sait plus penser. Pour moi, c'est de l'exclusion. Ça veut dire, demain, on est handicapé, on est dans un fauteuil roulant, on ne peut pas être au gouvernement. Enfin, moi, j'appelle ça de l'exclusion, de penser qu'à cause de son aspect physique,
ouais.
Qui doit être pas facile pour lui tous les jours. Puis vous savez, moi, je vais vous le dire, hein, à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont boursouflés, et c'est pas à cause de cette maladie, c'est à cause de l'alcool.
Tu crois?
Non, bah, oui. Hein, et l'alcool, ça boursouffle, hein. Et là, personne n'en parle de
à
ça.
À une époque, et les réseaux sociaux le montrent tous les jours, où on vit justement l'importance de l'apparence, et on le voit sur TikTok avec tous les jeunes qui prennent des filtres pour apparaître à l'image, etc.
Oui, mais la politique, c'est aussi un
l'apparence
politique.
Est ultra important. Et là, lui, il cache pas ça. Il pourrait très bien se teindre, etc., cacher les choses. Il l'a jamais caché. Ça fait des années qu'on voit progresser son probable vitiligo.
Voilà, il y a un changement marquant.
Là, il y a un changement. Oui, très marquant.
La photo, d'ailleurs, la photo.
Il en parle, quoi.
Qui est derrière Alain, n'est même. C'est plus son visage.
Non, oui, parce que depuis, il a perdu la moustache et les sourcils. Ouais.
C'est là, brutal, en fait. C'est pour ça que je disais, est-ce que ça évolue ? Parce que le changement est quand même brutal.
Ben, c'est favorisé probablement par le stress. Enfin, ça peut l'être, en tout cas, on le sait, dans les facteurs de développement, il y a les épisodes
oui,
de stress.
Oui, mais alors, ça se posera forcément une question. Si c'est un homme stressé, c'est un homme qui. Voilà, le problème c'est qu'en France on a été traumatisé par Pompidou et Mitterrand, par Pompidou qui a caché sa maladie,
voyait
physiquement, ouais. Mais il racontait des choses qui étaient fausses, et François Mitterrand qui a carrément falsifié ses bulletins de santé.
Ouais.
Et donc ça a quand même cassé un espèce de lien de vérité et de transparence et de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent et de leur état de santé.
Mais Roosevelt avait une poliomyélite. Mais je veux dire, le fait d'être malade t'empêche pas de gouverner. Il y a que vraiment, tu peux être très diminué.
Non, c'est le mensonge.
Le mensonge, le mensonge est consubstantiel à la politique.
Pardon, mais François Mitterrand, dans son deuxième septennat, est-ce qu'il était vraiment en capacité de gouverner à la fin de son deuxième septennat? Hein, c'est quand même une question qui.
Souviens-toi du fameux débat sur l'Europe, où il était face à Philippe Séguin, qui a dit plus tard, Philippe Séguin, qu'il avait devant lui un homme, alors que nous on voyait, mais qui était fatigué, qui était affaibli.
À chaque pause, se faisait soigner.
Oui, qui se faisait soigner. Ouais. Et que lui-même avait retenu d'ailleurs un peu ses arguments et ses coups politiques d'ailleurs, quoi. Donc, ce qui prouve que ça a quand même un impact. Monsieur Mehdi Ghezzar. Est-ce que ça peut le desservir, Édouard Philippe?
Non, je
pense que ça a son importance.
Déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé court à certaines rumeurs peu dégueulasses qui étaient en train de se propager sur la presse écrite et sur un peu le tout Paris. Donc comme ça, il a nettoyé en fait tout ça. Et peu importe le degré de gravité d'une maladie, une maladie c'est quelque chose qui est toujours complexe à expliquer. C'est personnel. Et je pense que la locution d'hier, enfin de son interview d'hier, a un peu remis les choses à leur place, dans leur contexte, que lui prend très bien la chose, et que je trouve que c'est très intrusif de rentrer dans la vie privée de quelqu'un qui n'a pas de mandat national. Actuellement, il n'est que
il est maire
du Havre,
mais
il n'a pas de mandat national. Donc, enfin, je comprends pas.
Moi, il est présidentiable.
Oui, mais il est présidentiel, mais on est en 2023, c'est 2027, c'est dans 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans. Et je pense que le mec, il en a eu marre que tout le monde lui pose ses questions, qu'on fasse des allusions, et qu'il a voulu vraiment mettre le haut là en leur disant, écoutez, c'est une maladie, il y en a plein qui sont comme moi, il y en a qui sont, c'est pire que moi, et passons à autre chose, quoi. Je pense pas que les Français en 2023, honnêtement, leur sujet de préoccupation principale, ça soit la couleur de la barbe d'Edouard Philippe.
Oui. Ben,
excusez-moi, c'est quelque chose de personnel qui doit rester personnel. Et ça, c'est une certaine presse, certains
Non.
Médias.
Non, c'est les Français qui s'interrogent.
Non, mais je pense pas.
Mais si à chaque apparition, la personnalité a changé. Donc,
moi, je pense que ça doit. La maladie doit rester.
Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a?
La maladie, c'est quelque chose de personnel. Je te parle en connaissance de cause. Quand t'es malade, quand t'as une maladie,
mais elle est visible,
peu importe la maladie, t'as envie que ça reste entre toi et toi-même, ou alors vraiment dans un cercle proche à toi. Oui, d'accord.
Il a coupé court
aux rumeurs, donc arrêtons justement de. C'est pas quelque chose qui est une maladie grave, d'après ce qu'il dit, d'après le docteur non plus. Voilà, mais.
C'est une maladie qui se voit.
C'est un homme public.
C'est difficile. C'est un métier de représentation.
Quelqu'un qui n'a pas de métier de représentation, il n'a pas à en parler, si tu veux. Parce qu'on ne va pas lui poser la question. Très peu de personnes lui posent la question.
Est-ce que ça l'empêche?
C'est des millions de personnes.
Est-ce que ça l'empêche? Est-ce que le docteur, et là je parle sous ta responsabilité, c'est toi le docteur, est-ce que ça l'empêcherait d'être maire du Havre ou de gouverner ou d'être. Qu'il a été premier ministre ou de. Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette maladie l'empêche de.
Le questionnement peut empêcher d'eux, parce que les Français peuvent se dire, oulala, il est malade, cet homme, est-ce qu'on doit voter pour quelqu'un qui est malade, etc. Et c'est pour ça que je dis que ces paroles sont importantes. Quand il dit l'important, c'est pas ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils sont, c'est très important comme phrase, quoi.
Moi, je trouve que c'est même dit que c'est pas grave.
Si tu commences à te poser la question et à dire, ouh, il est porteur de quelque chose, on va pas voter pour lui. Ça, c'est dramatique. Et donc, il coupe court à ça, il explique, il a raison, il joue la transparence, et c'est ce qu'il faut faire, quoi.
Nous sommes avec David qui veut intervenir, David qui nous appelle du Loir-et-Cher. Bonjour, David.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça peut le desservir, Édouard Philippe? Même s'il joue la transparence, dites-nous.
Eh ben écoutez, moi, franchement, je ne pense pas. Je pense pas. On a eu un président de la République qui avait un cancer et qui a bien
été président. Vous ne le saviez pas? Vous l'avez su après?
On s'en doutait un petit peu quand même, parce qu'il était plus jaune que blanc. Donc,
bref. Mais vous le saviez pas.
Après, il y a Florent Pagny qui a son cancer et qui va continuer à chanter. Je veux dire, enfin, c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas toutes ses capacités. Après, si on a Alzheimer, etc., bon, c'est autre chose. Mais à partir du moment où on avoue la chose et on s'aperçoit qu'on est dans ses capacités de bien faire, je ne vois pas qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas. Je vois pas en quoi ça peut déranger. Parce que moi, il suffit que demain j'ai une maladie, on me dise, oh bah monsieur, vous arrêtez de travailler parce que vous avez je ne sais quelle maladie.
Ça peut arriver. Il y a des maladies qui empêchent de travailler.
Oui, comme quoi?
Si vous avez un cancer généralisé, j'imagine que vous, en tant qu'employé de mise en rayon, on ne va pas vous faire travailler.
Non, mais d'accord, mais là, on ne parle pas de cancer généralisé. Là, on parle de perte de pilosité. Alors, c'est pour ça que vous perdez la tête, parce que vous perdez vos cheveux? Non, je suis pas certain.
Non, David, mais quand vous briguez un mandat et que vous êtes censé peut-être demander à ce que les Français vous confient les responsabilités de la France, aujourd'hui, l'apparence, ça compte. Et puis, même si vous jouez la... Non, mais attendez, je continue. Et même si vous jouez la carte de la transparence en disant, voilà, je n'ai qu'une alopécie, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous dites, oui, mais une alopécie, ça veut dire qu'il a peut-être la santé fragile. Dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'il aura? Est-ce qu'il sera toujours en capacité? Vous voyez, sur un quinquennat.
D'accord avec toi.
Moi, je pense que les gens peuvent s'interroger. Allez-y, David.
Si à partir du moment où on est public, il faut avoir une apparence vachement super belle, eh ben, je vois pas l'intérêt, en fait. Si vous, un jour, vous avez, vous, Alain ou Olivier, vous avez une perte de pilosité, vous allez...
C'est le cas déjà pour Olivier. Moi, je perds mes cheveux, déjà.
Eh ben, est-ce que vous avez arrêté la télé parce que vous perdiez vos cheveux? Non, je pense pas.
Je crois que je vais aller en Turquie.
Eh, David. David, c'est Elina. Moi, là où je vous rejoins, et Alain, je suis désolé pour toi, mais c'est là où je vois que tu es encarqué dans ce moule que nous impose cette société. Vous avez compris, quoi.
Mais bien sûr, non.
Il faut être beau. Voilà, mais qu'est-ce qu'on... Moi, j'en peux plus. Moi, tu sais que les gosses, c'est ça que je leur apprends. Surtout, ne vous fiez jamais aux apparences. Non, mais attends, s'il faut être beau pour être président de la République, il faut être beau.
Pardon, Elina, on va arrêter
d'être au-delà de la parole.
On va arrêter d'être.
Mais moi, je ne suis pas pour
toi. Pas toi, mais Édouard Philippe. Il s'est fait aussi une réputation sur son côté dandy, plutôt élégant,
boxeur, sportif, plutôt
bien habillé. Il y a beaucoup de femmes qui le trouvaient.
Mais il est toujours bien habillé,
quand même, séduisant, etc. Ça rentre dans la politique.
C'est de la com.
On peut le regretter, mais ça rentre dans la politique. Pardon, Emmanuel Macron, la jeunesse d'Emmanuel Macron, ça l'a aidé à se faire élire. Enfin, arrêtez de vous êtes vraiment des faux culs.
Il y a une chose qui me sidère.
Nous dire qu'on est des faux culs, non. Moi, je suis désolé. C'est pas parce qu'on est moche qu'on peut pas bien travailler.
Je suis désolé.
On n'a pas dit ça.
Ça rentre parfois dans le.
Vous êtes en train de dire que si on n'a pas une belle apparence en politique, on peut pas le faire.
Non,
si,
David, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a parlé lui-même de sa maladie, de son alopécie, et que ça pouvait, du coup, derrière, interroger sur sa fragilité éventuelle, son état de santé, en se disant, s'il a une alopécie à 50 ans, est-ce qu'il est fragile ou pas? Quoi. Voilà.
Mais là, t'as parlé d'apparence aussi tout à l'heure. Mais oui, les deux sont liés.
L'apparence, arrêtez de faire parler. Oui. Oh, regardez, François Hollande, il se présente à l'élection présidentielle, il perd 20 kilos. Il l'a fait comme ça, vous pensez qu'il avait décidé
de faire
parce que François Hollande s'était dit, je dois me mettre dans un costume présidentiel, je veux montrer que je fais des efforts à mon poids, etc. Après, il les a repris après, mais bon.
Ah, il les a repris quoi?
Arrêtez, allez-y, David.
Avec sa cravate de travers, et puis il a repris 30 kilos depuis.
Bah oui,
vous l'avez vu aussi.
Mais pour l'instant, il est toujours visible en politique. Mais David, reconnaissez
que l'apparence, on peut le regretter, joue aussi dans une carrière politique. François Hollande qui perd des kilos, Nicolas Sarkozy qui se montre en faisant du sport tous les quatre matins. Bien entendu que l'image compte, Emmanuel Macron, sa jeunesse. Valéry Giscard d'Estaing, souvenez-vous, qui s'affichait en jouant au foot, etc. et qui voulait se montrer jeune, justement, par rapport à François Mitterrand qui était plus vieux.
Emmanuel Macron, je dis que compte sur les stades, super.
Mais je dis que c'est pas essentiel, mais ça compte.
Politique quand même, merde. Sans déconner, on peut faire très bien de la politique sans être bon.
Mais c'est pas ce que je dis. Je dis que ça rentre.
En considération, ça compte.
Dans la com, et la politique, c'est aussi de la com.
Moi, un mec comme Joe Biden, qui a 80 ans, qui sait pas où est-ce que va, où est-ce que le nord, où est-ce que le sud, parce qu'il a complètement Alzheimer et qu'il est complètement perdu, il me fait beaucoup plus peur que Edouard Philippe avec son manque de vélocité.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
D'une, ils n'ont pas le même âge. Deux,
pourtant les gens ont voté Joe Biden.
Si Edouard Philippe dit qu'il est capable d'assumer, à partir
il est capable. Moi, j'en suis convaincu qu'il est capable.
Voilà. Il est capable d'assumer.
Et que sa maladie doit rester totalement personnelle.
Mais qu'on le veuille ou non, la position.
Finissez votre phrase, David. Pardon,
David, allez-y.
À partir du moment où les personnes politiques ne sont pas en mesure de dire. C'est bon, je suis trop vieux, je m'en vais parce que je ne suis c'est plus capable d'assumer. Eh ben là, c'est dommage. Mais par contre, là, il dit, je suis malade, mais par contre, je suis capable d'assurer mon rang.
Donc, à partir du moment où
ils assument leur rang, s'ils sont trop idiots pour dire, ah ben non, je suis trop vieux maintenant pour assumer mes fonctions.
Mais je suis persuadé que si après l'intervention d'Edouard Philippe vous faites un sondage auprès des Français en disant est-ce que vous êtes convaincu qu'il est en totale capacité, vous aurez, j'en suis persuadé, 20% ou 25% des gens qui diront non, j'en suis pas sûr, parce qu'ils s'interrogent derrière sur l'alopécie, qu'est-ce que ça implique, est-ce que à 52 ans derrière il aura pas d'autres problèmes de santé ou quoi que ce soit. David, voyez que la discussion existe. Dans un instant, on en parlera avec Théo qui est entrepreneur du côté de l'Essonne, passera un coup de fil aussi à Christophe Barbier, parce que c'est un enjeu politique aussi pour Edouard Philippe. C'est pas pour rien qu'il parle de ça publiquement. Il pourrait très bien le taire, dire écoutez, ça me regarde, ça ne comptez pas sur moi pour répondre, etc. Allez, on en parlera avec vous encore au 32-16 et avec Barbier.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avec les GG, avec Elina Dumont, intervenante sociale, avec le docteur Jérôme Marty, avec le chef d'entreprise Mehdi Ghezard, on évoque la prise de parole d'Edouard Philippe hier. Prise de parole éminemment politique, bien sûr, puisqu'il a, il soutient la réforme des retraites du président et de son gouvernement. Mais il a évoqué aussi sa maladie, son alopécie, en disant oui, bon, voilà, je perds mes cheveux, je perds mes sourcils. Il répond ainsi à tous ceux qui s'interrogeaient sur ce qui arrive à Edouard Philippe. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa carrière politique, la suite de son parcours ? Théo, bonjour.
Bonjour les GG.
Vous voulez en parler avec nous ? Alors, à votre avis, oui ou non ?
Oui, moi je pense que oui. Donc, comme vous m'avez décrit un petit peu, donc je suis entrepreneur, mais je suis aussi engagé dans la politique. Je suis élu local et il y a quelques jours, j'en ai discuté avec un petit groupe d'amis engagés aussi en politique. Et justement,
dans quel camp ?
Dans quel camp ? La majorité présidentielle en plus, d'accord. Donc vous voyez.
Ouais.
Et je disais que justement, depuis qu'il a perdu ses cils, ses sourcils, je pense que quand même, beaucoup de gens peuvent se poser des questions et se dire, ben voilà, est-ce qu'il n'a pas une maladie plus grave, est-ce qu'il est plus fragile ou pas, ou alors même aller sur un autre camp, hein, tout simplement, et de dire, comme vous avez donné des exemples, des arguments là-dessus, hein, Alain et Olivier. Il y a une défiance aussi sur la santé des présidents, la santé des politiques. Les Français ont
les Français ont l'impression qu'on leur dit pas la vérité parce qu'il y a eu malheureusement des précédents fâcheux avec Mitterrand et Pompidou où on nous a menti. Ouais, mais donc c'est sûr que ça a créé une suspicion.
Ouais, mais la société a évolué. On est en 2023.
Par exemple. J'aimerais bien dire la même chose que dire que l'apparence ne compte pas, etc. Mais c'est totalement faux.
Ouais. Non, bien sûr, elle compte.
La grossophobie, on le connaît tous, hein, pour voilà. La discrimination à l'emploi. On sait très bien qu'une fille, si elle est plus jolie, elle sera plus facilement embauchée. Il faut être réaliste aussi. Hein, et en politique, ça compte énormément. Combien de personnes ont voté Emmanuel Macron en 2017 uniquement parce qu'il était beau?
Pas moi, hein, je vous le dis. Hein.
Ouais. Mais non, mais l'apparence, ça joue.
Ça joue, la com, ça joue, la com, ça joue. C'est un truc de com.
Et j'ai envie de dire de plus en plus d'ailleurs, parce que souvent, il n'y a plus tellement d'idéologie, plus de fond, donc c'est
non, mais justement, le « je suis malade » et « alors » est intéressant.
Oui.
Parce que on a trop tendance à cacher les choses. Or, il est dans une fonction qui demande une certaine transparence. Et donc, le fait qu'il dise « oui, mais je suis malade et alors ?» Et là, t'as pas d'argument en face. Qu'est-ce que tu vas lui rétorquer?
C'est vrai.
Tu vois, donc il a raison de faire ça. Et quand je dis qu'il est porteur et porte-parole à ce moment-là des patients qui ont des maladies chroniques et que vous croisez tous les jours sans le savoir parce qu'il y a plus de 30% des Français qui sont porteurs de maladies chroniques, ben, c'est un fier salut qu'on leur fait là, quoi. Et on leur dit oui, ouais. Oui, c'est ce qui est important, c'est Théo. Ce que vous êtes. C'est pas ce que vous avez. Quoi.
Théo, merci d'avoir été
ça
avec nous, Théo.
Humaniser.
À bientôt dans,
bien
à bientôt, Allez. Théo. Merci. On va en parler avec Christophe Barbier. Bonjour Christophe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
L'éditorialiste bonjour, politique, Christophe. C'était opération transparence et vérité pour Édouard Philippe hier alors.
Oui, bien sûr, il devait remettre plusieurs pendules à l'heure, une pendule politique, hein, ses relations avec Macron, sa position sur la réforme des retraites, est-ce qu'il est vraiment dans la majorité, et puis une opération de transparence personnelle, remettre à l'heure sa pendule personnelle avec cet aspect physique en effet. Et je pense que il a à la fois payé le prix du passé, en effet, les mensonges sur Mitterrand, sur Pompidou, mais pas seulement. On nous a menti aussi sur l'AVC de Chirac en 2005, oui. C'était il n'y a pas si longtemps. Oui. On nous a menti en 2009 sur le malaise cardiaque de Nicolas Sarkozy lors d'un jogging, ouais. Qui a été minoré à l'époque. On nous ment tout le temps. Donc évidemment, les Français ont des raisons d'être suspicieux. De ce côté-là, je pense qu'il a fait le travail. En plus, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, pas dangereuse, qui porte aucune atteinte à ses capacités intellectuelles s'il devait présider le voilà. Pays. Mais qui l'humanise aussi beaucoup. Parce oui. Que quand même, chez Édouard Philippe, il y a oui. Le côté brutal du jupéisme, la retraite à 65 ans, à 67 ans, les 80 km/h. Là, on voit que ce type est capable de souffrir. Peut-être que cette maladie a été déclenchée aussi par les stress encaissés quand il était à Matignon avec la Covid. Donc, ça l'humanise. Ça peut lui rendre service. En tout cas, il a raison de communiquer vite et plutôt de manière moderne sur cet aspect, sur cet aspect-là.
Est-ce que ça peut quand même, handicapé, entre guillemets, la suite de son parcours politique?
Alors, le charisme est décisif en matière politique. Ça passe par la communication et la communication en partie par le physique. De ce côté-là, évidemment, ça peut le handicaper. Mais qui aura-t-il en face de lui? Franchement, s'il est face à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ça ne sera pas un concours de beauté, mais il n'est pas sûr de le faire quand même. Hein. Donc, voilà. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il ne sera pas confronté à Barack Obama ou à Emmanuel Macron en 2017. Donc il ne devrait pas y avoir ce handicap physique. Par ailleurs, il y a quelque chose chez Édouard Philippe qui est une sorte de prestance un peu british. Oui. C'est une grande silhouette. Et ça, il va le garder. Alors à lui, évidemment, avec ses conseillers en communication, de repenser éventuellement son look. Mais il peut tout à fait avoir un bénéfice. Rappelez-vous cet arbitre de foot en Italie qui était complètement chaud.
Ouais, Colina.
Colina. Ben, il avait une sorte d'autorité supplémentaire parce que quand il faisait les gros yeux, ça se voyait.
Mmh. Oui, mais Christophe, par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire les précédents un peu fâcheux de ces présidents qui nous ont caché soit la maladie, soit la gravité de ce qu'ils avaient, je suis sûr que hier soir, des gens qui regardaient Édouard Philippe se disaient oui, mais ils nous racontent pas tout, tu vois. Et je suis malheureusement, la transparence a des limites. Il y aura toujours des personnes pour penser qu'Édouard Philippe nous a pas tout raconté hier, que sa maladie est peut-être plus grave, parce que quand même ce changement physique est surprenant. C'est toujours le problème de la transparence. On en veut toujours plus derrière.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il devra communiquer encore, tenir au courant les Français de l'évolution de cette maladie. Il oblige aussi les autres compétiteurs à faire de même, parce que si lui est transparent, il est obligé, parce que ça se voit, c'est pas une maladie interne, c'est une maladie externe. Ben, les autres compétiteurs engagés dans la présidentielle devront en faire autant. Mmh. Et ça, ça peut permettre à la société d'aller un peu plus vers la transparence. Si en allant vers la transparence, on restaure la confiance, les Français ne seront pas dans le voyeurisme. Ils demanderont pas des détails sordides avec des bulletins médicaux. Ouais. Rappelez-vous qu'au temps des rois, eh bien, les bulletins médicaux des rois de France étaient affichés, étaient rendus publics, affichés à travers le royaume. On suivait l'évolution de la maladie de tel ou tel souverain. On a reculé en matière de transparence. On a donc créé des zones d'ombre et on a créé une défiance.
Oui, mais est-ce que...
Non, on ne votait pas pour les rois.
Est-ce que en 2027, les Français peuvent voter pour quelqu'un dont l'apparence physique change, qui dit qu'il a une petite maladie, même si elle n'est pas grave? C'est ça la question. Est-ce qu'on lui confie les rênes du pays pour 5 ans, quoi?
Je pense que c'est tout à fait possible tant que ses capacités de travail et ses capacités intellectuelles ne sont pas atteintes. Ouais. François Mitterrand, à la fin de son deuxième septennat, il était capable de travailler une heure par jour. Le reste du temps, c'était Hubert Védrine qui dirigeait le pays avec Anne Louvergeon. On était quand même dans un problème démocratique. Là, l'alopécie d'Édouard Philippe, qui est un quinquagénaire en pleine forme, ça ne portera absolument pas atteinte à sa capacité de travail.
À moins que son apparence change encore d'ici l'entrée en campagne dans 3 ans. Mais il peut se passer beaucoup de choses, quoi.
Il peut se passer beaucoup de choses, mais le fait de ne pas être forcément favorisé par les dieux, ça peut aussi le rapprocher d'une population qui souffre.
Bien sûr.
Christophe, ce que je voulais vous dire, ce qui peut arriver aussi bientôt, c'est que toutes les personnes qui ont cette maladie témoignent.
Oui, aussi.
Bien sûr, ça peut les aider à mieux assumer et à dire, vous voyez, on est comme l'ancien Premier ministre, donc on n'a pas à être regardé bizarrement dans la rue.
Eh bien, hier, il s'est fait un peu le porte-parole de ces gens qui étaient touchés par
Bonne journée,
maladie.
Christophe, merci, à bientôt, passez un bon week-end. Merci. Ben justement, Momo est atteint d'alopécie.
Ah.
Il est au 32-16 avec nous. Bonjour, Momo.
Oui, bonjour les grandes gueules, et je suis vraiment ravi de vous avoir au téléphone. Ça fait 25 ans que je vous écoute et c'est un très très grand moment pour moi.
Momo de Gironde.
25 ans. Donc avant les grandes gueules alors.
20 ans, 25 ans, mais depuis l'époque de Karim Zeribi.
Ah oui, d'accord.
Sophie de Menton.
Sophie de Menton.
Bien sûr. Bernard Debré.
La personne là qui gérait une agence de voyage.
Ah, Jacques Maillot.
Jacques Maillot. Salut, président Maillot, bien sûr,
qui nous écoute.
Vous avez bercé mes nuits, vous avez bercé mes matinées. Et franchement, ça fait.
Bon, voilà. C'est pas nous qui avons déclenché l'alopécie chez vous, j'espère, non?
Peut-être.
À un certain moment, récemment, avec certaines GG, ça aurait pu le faire.
Alors, l'alopécie, comment vous avez pris les déclarations d'Edouard Philippe, justement?
Franchement, moi, je le remercie infiniment d'en parler aujourd'hui, parce que c'est une maladie qui est très très inconnue. Et aujourd'hui, moi je l'ai eu à l'âge de 11 ans, pour tout vous dire. Et ça s'est déclenché par le décès de ma maman, tout simplement. C'est une maladie qui est complètement anodine. Moi aujourd'hui, je suis courtier en assurance, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Je suis inscrit dans la société, je milite même politiquement, voilà, donc il n'y a aucun problème. Et ça me touche même négativement quand on dit qu'il peut pas gérer le pays, puisque ça veut dire que moi aujourd'hui, si je suis porteur de cette maladie, je ne peux pas gérer mon quotidien, je peux pas gérer ma famille, alors que c'est une maladie vraiment très très visuelle.
Comment ça s'est traduit chez vous alors? Qu'est-ce que ça a changé dans votre apparence, Momo?
Alors j'ai eu une chute de cheveux très brutale, donc j'ai des plaques. C'est des plaques qui se manifestent. Donc, c'est pire que de ne plus avoir de cheveux, parce que c'est des plaques qui se manifestent. Et à l'âge de 11 ans, vous imaginez bien que les enfants ne sont pas...
Attendre.
Mais oui.
Voilà.
C'est ce que disait hier, d'ailleurs, Édouard Philippe. Il disait, lui, il en souffre à 52 ans, mais il y a des gens qui sont frappés d'alopécie à l'adolescence, et c'est vrai que ce n'est pas la même histoire.
Exactement. Et c'est une maladie qui évolue, parce que, moi, j'ai perdu mes cheveux. Ensuite, ça va se déplacer. Donc je vais retrouver mes cheveux, et mes sourcils, pareil, j'ai perdu mes sourcils, donc là je les retrouve. Et a priori, c'est une maladie qui peut pas se guérir physiologiquement.
Ah, mais attendez, ça repousse ensuite?
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire.
Moi j'ai ma barbe qui a repoussé.
Ah bon?
Lui aussi. Oui, j'ai ma barbe qui a repoussé.
Mais si c'est une maladie auto-immune en même temps.
Sa barbe qui a repoussé.
Alors, ouais. Sa barbe a repoussé aussi à Édouard Philippe. Il y a sa moustache qui n'a pas repoussé, mais sa barbe a repoussé.
Ses sourcils.
Voilà.
Il y a ses sourcils. Voilà, là, on est en train de parler de physique. Et c'est vraiment une maladie.
C'est que du physique. C'est
vous, avez un traitement ? Vous avez un traitement ?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de traitement, en fait.
Il n'y a pas de traitement, non.
Il n'y a pas de traitement pour cette maladie.
Et on vit avec. Momo, excusez-moi, juste une question. Ça ne vous empêche en rien de travailler, ça ne vous empêche en rien de vivre, ça ne vous empêche en rien d'être chef de famille, ça ne vous empêche. On est bien d'accord. Vous n'avez aucune gêne par rapport à ça.
Ah, mais complètement pas.
Tant mieux.
Je vais vous dire, aujourd'hui, je me suis rasé complètement la tête. Moi, je suis un petit peu métissé, donc on me trouve plutôt beau gosse. Donc
wow,
ça me. Ça ne perturbe aucunement. Par contre, il y a des gens qui vont venir voir, mais je vous souhaite bon courage parce que vous êtes.
Je crois que vous avez un cancer.
Voilà, monsieur. Exactement.
Oui. Ouais, merci Momo, merci d'avoir
fait cette franchise.
Merci de cette.
Si vous avez un petit.
T-shirt.
T-shirt, je serais ravi.
Alors, on est en train de les refaire, ça tombe bien, on va prendre vos coordonnées.
On va prendre les coordonnées, puis quand on aura les nouveaux t-shirts, promis, on vous l'envoie à Momo. C'est super, pour vous remercier de votre fidélité.
Bonjour à Barbara de ma part.
Barbara Lefebvre, ce sera fait, ce sera transmis. Salut Momo, passez une bonne journée, un bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. On a posé la question, est-ce que Édouard Philippe, sa maladie, est-ce que ça peut le desservir politiquement, oui ou non? Non, à 57%, mais tu vois.
Mais quand même, oui.
42.
C'est pas rien. Hein.
Tout à l'heure, je disais un petit tiers. Ouais. En fait, c'est 42%.
42.
C'est un quart, quoi, quasiment.
Dans un instant, avec le service politique d'RMC, les indiscrets GG, avec le président de la République qui joue la carte de la discrétion en ce moment concernant la réforme des retraites. Et puis, on aura le quiz des grandes gueules, bien sûr, aussi.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Le à vous de choisir, il faut pas l'oublier. Pour de quoi voulez-vous que l'on parle ensemble là dans 20 minutes? Je sais que les votes ont commencé sur notre site internet rmc.fr. Deux sujets de discussion, des personnes âgées privées de pain à cause de l'inflation. Est-ce que c'est scandaleux? Ou bien pour ou contre des ateliers pour enfants qui sont animés par des drag queens. Votez sur notre site internet rmc.fr et on en parle tout à l'heure à 11h. C'est vous qui choisissez le sujet de discussion. En attendant, parlons politique.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les indiscrets avec le service politique d'RMC et son patron, Jérémy Trottin. Bonjour Jérémy.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Vous nous dites ce matin qu'Emmanuel Macron a décidé d'être plutôt discret.
Oui, alors que la colère gronde dans les rues et que le mouvement social pourrait encore s'intensifier, les conseillers du président ont décidé de protéger au maximum le chef de l'État. Un déplacement envisagé un temps la semaine prochaine à Marseille. A même été, le thé, c'est la tisane aujourd'hui, pour ceux qui suivent.
C'est ton thermos, hein. Le thermos de Trottin, l'accident de thermos.
Bref, Gina, elle est stressée, elle a perdu tous ses cheveux.
Vas-y.
Macron qui avait prévu d'aller à Marseille la semaine prochaine, finalement ce déplacement a été reporté. Alors l'Élysée assure que ce déplacement n'a jamais existé, et pourtant un certain nombre de parlementaires locaux avaient reçu l'invitation, et même ces deux date. Il est vrai qu'il aurait été quand même assez cocasse de voir Emmanuel Macron, certes fan de l'OM, se déplacer un jour de grève dans la très cégétiste cité phocéenne où Jean-Luc Mélenchon a pris l'habitude de manifester.
Donc, question. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas du tout le président de la République au cours des prochaines semaines ?
Si, mais pour des réunions de travail à l'Élysée ou encore un Conseil européen à Bruxelles, une réunion sur la sécurité à Munich, mais aussi peut-être quelques menus déplacements en France, car une réforme des retraites, c'est extrêmement violent et le président doit absolument se tenir en retrait, explique un fin connaisseur des conflits sociaux. Aucune grande prise de parole n'est donc prévue à ce stade pour Emmanuel Macron. Qu'il ne dise surtout rien, qu'il ne bouge pas, il ne viendra que quand il faudra débloquer la situation, explique un de ses proches. Un ministre avec qui j'ai échangé récemment me disait qu'une intervention de toute façon du chef de l'État aujourd'hui serait perçue soit comme un sentiment de panique, soit comme une provocation.
Mais le président de la République a quand même une date qui est cochée sur son agenda.
Oui, celle du 25 février, c'est un peu le quiz des GG en avance. Pourquoi le 25? Vous savez ce qui se passe le 25?
Salon de l'agriculture.
Voilà. Salon de l'agriculture, où cette fois Emmanuel Macron a bien l'intention de rester assez longtemps. Ses conseillers nous disent qu'il sera présent dans les allées du salon pendant au moins 12 heures, de la traite au coucher des animaux, mais il y va surtout en réalité pour renouer le contact avec les Français, et notamment avec ses agriculteurs, dont les pensions de retraite ont augmenté durant le premier quinquennat.
Alors, la discrétion du chef de l'État, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Marty?
C'est pas très macronien, quoi. Il va nous faire un grand débat dans quelques temps. Moi, je pense, d'ici quelques semaines, il va regrouper
les Français.
Il tiendra pas, mais bien sûr.
à chaque fois qu'on a eu comme ça des mouvements sociaux importants, il a fait quoi? Il a fait un grand débat. Un Tour de France et un grand débat. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il est totalement incapable de rester... Enfin, je veux dire, c'est une présidente...
Ça tient pour le moment.
C'est une présidente jupitérienne, on l'a assez dit. En fait, c'est lui qui tire toutes les... Qui prend toutes les décisions et qui tire toutes les ficelles. Donc, on le voit mal se tenir en retrait d'un mouvement extrêmement important. Au contraire, à mon avis, il va prendre la parole. À un moment ou un autre, il prendra la parole. Ça ne durera pas, cette histoire-là. Enfin, je ne le vois pas... la jouer à l'anglaise, très très discret, très ou alors ça veut dire, ça peut être aussi considéré comme justement je fais comme si rien ne se passait et je gère le pays, les autres
sur les deux dernières journées de manifestation. Voilà.
Très honnêtement,
il était à l'étranger, il était en Espagne, oui. Et il était aux Pays-Bas.
Non, mais très honnêtement, à mon avis, il va reprendre la parole et il va la reprendre très vite.
Après, il laisse aussi la première ministre en première ligne, parce que à partir de lundi, c'est à l'Assemblée que ça se passe, et donc c'est entre le gouvernement et
on
les
revient au jeu classique de la cinquième. Oui.
Il a mis Elisabeth Borne en première ligne, et maintenant il est tranquille parce qu'il est derrière, il est du haut de son pupitre, et honnêtement, il a plus grand chose à faire parce qu'il sait que ça y est, les dés en quelque sorte sont pipés, ça va grogner, ça va gueuler, c'est sûr, c'est une certitude, mais il n'a pas
il n'a pas intérêt là.
Il a aucun intérêt à aller au front quoi maintenant. C'est pas mais pour lui. Et en plus, n'oubliez pas quelque chose, c'est que la première année, enfin le premier quinquennat, il avait une réélection. Il n'a plus rien à jouer là. Il n'y aura pas de réélection pour lui. Il n'a pas de troisième mandat.
Mais tout dépend où tu places le curseur.
Si encore 4 ans de pouvoir.
Il a un vrai blocage du pays important. C'est lui qui prendra la parole.
Le premier quinquennat, c'est là où tu cours après ta popularité. Le deuxième quinquennat, qu'il soit à 2% ou à 10%, il va finir son quinquennat. Quoi.
Non, mais là, il préfère, à mon avis, mettre au front.
Madame Borne. Tu reviens au jeu classique de la cinquième. Tu reviens au jeu classique de la cinquième sur les dossiers.
C'est trop tôt pour intervenir.
C'est beaucoup trop tôt. C'est l'Assemblée, les ministres, les députés qui s'y collent sur les plateaux.
Et après les sénateurs qui, eux, ne sont pas assujettis à cette réforme des retraites, parce qu'eux ne veulent pas cette réforme des retraites. Oui. Nos chers et tendres sénateurs à 7 000 euros par mois.
C'est un autre sujet.
Voilà. Et ben eux, par contre, après, ils vont faire passer
le sujet. Il ne faut pas faire croire.
Il ne faut pas en parler de ce sujet.
Mais on en parle tous les jours. Et il ne faut pas faire croire que Macron ne s'intéresse pas à cette réforme. Il est en première ligne. Cette réforme, c'est lui qui l'a voulu.
Mais il l'a voulu.
Il est en première ligne pour que les députés de sa majorité ne flanche pas et vote bien comme il faut. Il est en première ligne pour que la droite, comme c'était prévu, vote cette réforme. Et voilà, donc pour l'instant, c'est en coulisses. Il n'a pas besoin publiquement d'intervenir. Peut-être qu'il aura besoin en fonction de l'évolution du mouvement social. Mais c'est trop tôt pour le dire.
Ils ont remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de slogans anti-Macron dans les manifs. Voilà. Donc
plus la première ministre, plus les ministres et plus les députés expliquent, plus la contestation monte. Donc si jamais Emmanuel Macron s'en mêlait, ça montrait peut-être d'un cran fatidique dans la mobilisation.
On parlera soit effectivement pour dissoudre l'Assemblée, soit pour dire après, on a réussi à faire passer cette réforme malgré l'impopularité, malgré les difficultés.
Et le curseur aussi, c'est le salon de l'agriculture, attention.
Il peut se faire chahuter.
Attention, il y en a qui se sont cassés la gueule, cassés les dents sur le salon de l'agriculture. Il y en a, ça s'est très très mal passé. Hein, parce qu'il y a des hommes politiques qui devaient rester des 12 heures et des 10 heures et qui sont restés que 2 heures et qui sont sortis par la porte de secours. Il faut faire attention.
Oui, mais c'est un exercice qu'il aime, on le sait.
Oui, mais dans la réforme des retraites, les agriculteurs,
des dispositions qui ont été faites pendant le premier quinquennat qui ont permis d'augmenter les pensions. Il y a encore une proposition de loi qui est en cours et aussi le nouveau dispositif avec les 1200 euros pour
écouter la loi qui leur garantirait une retraite un peu plus importante.
Et la loi Egalim aussi qui est quand même plutôt favorable aux agriculteurs. Donc il y a quand même
Globalement, le contexte au niveau de la question agricole est plutôt favorable en ce moment pour le chef de l'État.
Merci, monsieur Jérémy Crotin. N'oublie pas ton.
Thermos.
C'était quoi dans le thermos aujourd'hui?
C'est de la tisane.
À quoi?
Verveine citron.
Verveine citron.
Voilà.
C'est bien pour la gorge. C'est bien pour la gorge.
Merci, monsieur Jérémy. Allez, on y va pour le jeu. Bon week-end. On y va pour la quiz des GG.
À consommer avec modération.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent. Quiz des grandes gueules.
Il est comme Mbappé. Louis Gerbier vient de se faire la jambe là.
Il vient de m'éclater le genou dans la table.
Ouais, sur le coin de la table.
Aïe, aïe,
bonjour
aïe.
Louis.
Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Salut GG. Petit quiz actu pour finir la semaine. Quelle est la particularité du pizzaiolo propriétaire et gérant de Café Rossini Ristorante à Saint-Étienne?
Ancien mafiosi italien qui a été tapé à Saint-Étienne après 20 ans de cavale.
Exactement.
Et tu le connais, Mehdi?
Ouais, c'est un copain à moi.
Il fait de très bonnes pizzas, apparemment.
À ce qui paraît, ouais.
L'italien Edgardo Greco, membre présumé, comme tu l'as dit, de la puissante mafia calabraise. Alain, tu
nous... Ndrangheta.
Voilà, il le dit mieux que moi.
Oui, c'est une histoire.
Il était devenu pizzaiolo depuis 2 ans. dans le Forez, chez Anaïs, Saint-Etienne.
Il a ouvert sa boutique normale. Le type normal, il a ouvert une boutique de pizza.
Et c'est la collaboration Interpol entre les carabinieri et la police qui a fait qu'on l'a.
20 ans de cavale.
Tu sais comment il s'est fait serrer? Il s'est fait serrer parce que, en fait, il y a une photo dans un journal local.
Il est allé un peu loin.
Vantant ses pizzas, les bonnes recettes italiennes. Et le gars, avec, tu sais, avec des clients et avec ses cuistots. Et c'est comme ça qu'on s'y attendait. Le visage, là, comme il y avait déjà des avis de recherche, ça nous dit quelque chose. Et il s'est fait serrer comme ça. Un petit excès de confiance.
C'est.
Mégalomanie.
Il répondait pas à Greta Thunberg. C'est pas.
Le film American Gangster. Avec Denzel Washington.
Exact.
Inspiré d'une histoire vraie, un peu la même chose. Du plus grand bandit qui s'est fait avoir parce qu'un jour il a mis le manteau de fourrure offert par sa femme et qu'il s'est fait repérer de la sorte. Voilà. Bangladesh. On va au Bangladesh, pardon. Qu'est-il arrivé ?
Capitale.
Ouah, tu m'as pris là. Attends, je l'ai. Non, je l'ai plus.
D'accord. Dakar.
Voilà, c'est ça. J'allais le dire.
C'est pas, on fait les jeux des capitales.
Ouais,
on va enchaîner avec Louis Gerbier.
Enchaîner, on perle. Bangladesh, qu'est-il arrivé à Fahim lors d'une partie de cache-cache? C'est un jeune du Bangladesh.
Il a gagné.
Oui, voilà, il a gagné.
Il a gagné.
Ah oui, voilà, c'est un très bon indice.
Ah si, mais si, bien sûr, il s'est caché dans un avion, dans un conteneur.
Oui.
Et il s'est retrouvé à l'autre bout du monde puisque le conteneur a été déplacé sur un bateau.
Ils ont fait un cache-cache sur un port au Bangladesh avec des camarades à lui. Et lui, il s'est caché dans un conteneur. Comme dit Alain, il a gagné la partie, il s'est endormi dans le conteneur et il s'est retrouvé donc 6 jours plus tard en Malaisie. Donc un petit peu plus loin. Il a été retrouvé par un agent portuaire qui a entendu toquer en fait. Et ils ont retrouvé l'enfant déshydraté, affamé et avec des nausées. Mais bon, sain et sauf. Et il va être ramené par ce même bateau à la maison.
Pas dans le conteneur.
Mais cette fois, il aura peut-être une petite cabine quand même.
On continue.
Excusez-moi,
ça s'arrange pas. Pourtant, t'es sous traitement.
Je suis sous traitement. Ça progresse.
C'est Marty qui t'a filé le traitement.
J'ai deux antibiotiques. Pas un, deux.
Ouais. Il est en surinfection.
Ouais. Il coûte cher à la sécu. Hein.
On dira un mot gentil. Hein.
Ouais.
Peut-être que je parlerai en dernier, c'est promis. Mmh.
Bon, salut. Bosser l'épitaphe.
L'hommage. Vas-y.
Mason, on part à Chesterfield. Mason, 6 ans, a passé une soirée télé-canapé avec son papa. Une soirée qui a coûté très cher au père de famille. Est-ce que vous allez deviner pourquoi?
Attends, reprends.
Alors, Mason. Un père et son fils de 6 ans. On fait une soirée télé tous les deux et il s'avère que la soirée télé a coûté autour de 1000 euros à la famille.
Ils ont commandé des pizzas et ils se sont trempés.
Exactement, en fait, le père a mis un film, il était à fond dans le film, il a lâché le téléphone et le petit Mason de 6 ans, il a joué avec le téléphone et en jouant, en fait, il a fait des dizaines de commandes, pizza, sandwich, sushi, glace. Et toute la soirée, à intervalles très réguliers, la porte sonnait, enfin, ça sonnait à la porte. Et le père allait chercher une nouvelle commande et pour un total de 1000 euros environ.
Et le père se posait pas la question que les commandes arrivaient comme ça.
Il s'est rapidement posé la question, mais le problème c'est que les commandes sont faites. Les commandes sont faites, c'est commandé. Et alors, petit bonus, Mason, il est cool parce qu'il a laissé un pourboire sur toutes les commandes.
Ah oui.
C'est sympa.
C'est sympa.
C'est pas ses thunes, donc c'est sympa.
Comme quoi, dur de laisser toujours ta carte de crédit enregistrée sur des sites où tu peux commander comme ça en boucle. Ah, Mehdi, fais gaffe à ça.
Fait, sur Amazon. Ouais.
Ah oui, tu t'es fait avoir comme ça. Combien? 400 balles.
Ah ouais. Mais qui c'est qui t'a commandé?
Ton fils.
Les jouets. Il joue avec au moins maintenant.
Il a fait des trucs Pokémon, là, les cartes Pokémon et tout ça. En fait, il les a trouvés et sur un site qu'on connaît tous. En fait, il s'est tout commandé. Et moi, j'étais en train de dormir. Moi, je dormais vraiment. Il a tout commandé.
Il a pris ton portable.
Il a pris le téléphone. Il a tout commandé. 400 balles de cartes. Ouais, non, mais c'est sérieux. Hein. Jusqu'à qu'on reçoive, je sais pas combien de colis de cartes. C'est des petits colis, tu sais, parce que c'est des cartes à l'intérieur. Tu t'en rends pas compte. Ouais. Et quand tu vois ton relevé de compte, tu vois 400 balles Amazon, tu dis ah oui, quand même.
Le petit, il a pas.
Ah,
il a mis la dose. Ouais. Le dernier.
Le dernier. Ah bah alors si c'est le dernier, quel pilote de Formule 1 nous a quitté hier?
Ah bah oui, on sait. Mythique Renault.
Il a un nom marrant.
JPJ.
JPJ, ouais.
JPJ. Français.
Ça finit par ouille.
Ah, Jabouille.
Jabouille.
Jean-Pierre Jabouille.
Là, on l'entend dans sa Renault en Argentine, en 78. C'est pilote tricolore qui a gagné combien de grands prix de Formule 1?
Il a pas dû en gagner des masses d'ailleurs.
3, 4, non?
2.
2 à 2.
Il a gagné entre 79 et 80.
49 Grands Prix, 6 pôles, 2 podiums.
Et 2 victoires donc.
C'était la grande époque.
C'était la grande époque, les René Arnoux, Gilles Villeneuve. Oui. Gilles, non?
Jacques.
Jacques, c'est l'enfant, le fils.
Oui, c'était mais Gilles. Il y avait. Mais
du coup, à l'époque, c'est Gilles.
Il y avait Jean-Pierre Jarier. Tu avais Jacques Lafitte, tu avais Didier Pironi.
Non. À l'époque, c'était Gilles.
René Arnoux.
Non, à l'époque, c'était Jacques.
Villeneuve.
Oui.
Non, Villeneuve, c'est 97, Jacques.
Non.
C'est Gilles. Son c'est père. Jacques le fils et c'est Gilles le père.
Oui, c'est Gilles.
C'est
Gilles.
Tué dans
ah,
oui. Tué, ah, c'est oui. Gilles le père. C'est Gilles
le. Et Jacques, ouais. Il commande tous les grands prix.
Il y avait
15 jours.
Qui ça?
Il y avait un pilote qui s'appelait Serrier ou
non, Depailler.
Non, il y avait
Patrick Depailler qui était sur la tirelle à 6 roues. Il avait conduit Ferrari.
Jarier aussi.
Jean-Pierre Jarier qui était surnommé Godasso, semelle de plomb. C'était le mec à fond.
Ouais.
Ils jouaient leur vie à chaque Grand Prix, les types.
Ouais.
Ah bah, littéralement. Parce que là, tu prenais. Là, c'est pas Romain Grosjean, tous ces gars-là qui s'en sortent aujourd'hui. C'est miraculeux. À l'époque, c'était.
Merci, monsieur.
Merci à vous.
Merci, monsieur Louis Gerbier. Dans un instant, le à vous de choisir des personnes âgées privées de pain à cause de l'inflation. Ou des drag queens qui animent des ateliers pour enfants. Vous voulez qu'on parle ensemble de ces drag queens qui peuvent animer des ateliers pour enfants, pour ou contre? Allez, on en parle avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.